puisque j'ai la parole, donc, pour présenter ce qui a été fait. Et avant que Rav Yonah Abidal intervienne sur sa lecture de la politique dans la Megillat Esther, donc je rappelle que le tout premier séminaire était, comme Alexandre vient de le dire, ça a été consacré à la présentation du livre de Danny Trump par Nicolas Veil. Et le second séminaire était donc consacré à la royauté en Israël et les autres pouvoirs, qui étaient donc exposés par Rav Rundstein et présentés par Chaim Meir Trancar. Je voudrais aussi rappeler rapidement l'objet de nos travaux ici, qui consiste donc à essayer de comprendre l'agir propre des Juifs en exil, alors qu'on les a toujours pensés comme absents, passifs, persécutés ou expulsés de l'histoire, des empires dominants. Comment les Juifs se représentent et pensent leur propre histoire? Quel modèle commande leur persistance? Comment ont-ils pu rester un peuple sans territoire et résister à l'adversité? Quel rôle joue l'État d'Israël et en quoi réactive-t-il la promesse messianique? Quel est son impact international? Nous avons à réfléchir aux concepts et aux comportements qu'induisent les enseignements de la Torah, incluant l'apport des sciences contemporaines, eu égard aux pratiques d'une politique juive et à son sens. Alors je me propose, si vous voulez, si vous en êtes d'accord, parce que les débats étaient quand même extrêmement riches, j'ai trouvé, en les réécoutant, je les ai réécoutés, et j'ai pris le parti de relever le lexique élémentaire qui a été utilisé pour jalonner le périmètre conceptuel d'une politique juive, avec ses options, ses divergences, ses convergences et ses points aveugles. À travers ce lexique donc de ces deux séances, trois thématiques me sont apparues. La première concerne le vocabulaire, plutôt les embarras du vocabulaire du pouvoir dans la Bible. Première thématique. La seconde thématique, c'est la notion d'agir politique pour les Juifs. Et troisièmement, le positionnement de la halakha. Parce que les questions concernant la halakha sont venues de façon directe ou indirecte. Et cette question, même si elle est écartée, elle a été écartée de l'investigation de Danny Trump, il l'a dit très clairement, elle se pose quand même à l'intérieur de ces séminaires, cette question. Bon, alors sur le premier aspect, donc le pouvoir dans la Bible, son vocabulaire, ses fondements et ses modèles. C'est l'intervention de Rav Grunstein. Rav Grunstein a synthétisé, si vous voulez, toute l'histoire biblique en deux axes importants, la souveraineté en Israël et la guerre contre Amalek. Il a ouvert le champ du politique en projetant sur nos représentations modernes, issues des sociétés démocratiques dans lesquelles nous vivons, le lexique du pouvoir dans la mentalité biblique, qui est structurée par une notion qui nous paraît dépassée, la royauté de droit divin héréditaire, la malchut. D'abord, il faut dire en préalable à cette notion de malchut qu'il n'y a qu'une seule royauté, c'est la royauté de Dieu. Toute royauté humaine, fut-elle en Israël, est déjà une déchéance. Ça, on l'a souligné, je crois que c'est assez consensuel. Ce terme, néanmoins, s'applique au roi d'Israël, roi désigné par Dieu à la demande du peuple, dans des conditions qui montrent le caractère absolument dérisoire de la royauté, aussi bien pour Shaul que pour David. Au fond, la liberté pour un peuple, c'est la souveraineté de Dieu, mais elle implique des obligations, le respect de la Torah, la loi révélée, son observance et son étude, et une alliance. L'alliance avec Dieu, c'est ça l'alliance verticale. Les autres peuples qui n'ont pas accepté cette alliance sont soumis à une domination, à un régime de domination que le Rav Grunstein a appelé Memshala. Ce terme désigne les royaumes étrangers. Israël en exil vit donc sous ce régime, donc sous le régime de la Memshala, tout en étant relié par sa culture, sa foi, son histoire à la malchoute divine. On note cependant que la première occurrence du mot Mélère dans la Genèse apparaît avec Nimrod, roi tyran de Babel. Dans la Megillah, on a vu donc que ce terme désigne tantôt Assuérus quand c'est qualifié et quand c'est déterminé, et quand ce terme est indéterminé, Malchut Mélère est indéterminé, il désigne Dieu. Dans cette configuration, il existe un troisième terme, en dehors de Malchut et de Memshala, un troisième terme très important dont Rav Grunstein a signalé à la fois l'importance, la continuité et surtout la modernité, parce que ce troisième terme, c'est Amalek, et c'est le nom que Rav Gronstein a donné à l'antisémitisme, ce que nous appelons la figure de l'antisémitisme. C'est une figure récurrente, c'est un pouvoir de négativité, de nuisance, de haine, très actif en Israël. Israël qui a le devoir non seulement de le combattre, mais de l'anéantir sous peine d'être détruit par lui. Amalek est une figure énigmatique de l'adversité, inexpugnable, aussi éternelle qu'Israël. Il faut rappeler que l'une des missions du roi d'Israël est de détruire Amalek. C'est cet échec qui a entraîné la déchéance de la royauté de Saül, premier roi d'Israël, ancêtre d'Esther et de Mordechai. Le peuple juif a pour mitzvah de se souvenir de ce que lui a fait Amalek et d'agir pour effacer son nom. Bon, en quoi consistent les pouvoirs en Israël? Ils sont de trois types et ils sont réunis au début, comme l'a bien insisté sur ce point Rav Gronstein. Ils sont réunis entre les mains d'une même personne qui est le chef de famille, qui est l'aîné. L'aîné, c'était la primogéniture masculine. C'est l'aîné-fils qui réunissait ces trois pouvoirs, qui sont donc la malchut, la kohanout, le culte, et les biens, le patrimoine, et en particulier la double part sur les biens. Voilà les trois pouvoirs qui étaient liés au départ et qui sont transmis au fils aîné. Cette situation a changé et les pères ont perdu progressivement leur pouvoir avec Réhouven, donc le fils aîné de Jacob. Depuis lors, au fur et à mesure des temps, je passe sur la chronologie que je ne vais pas répéter là maintenant. Rav Gronstein l'a évoqué très précisément. Il y a le compte-rendu d'Alexandre qui donne tous les détails. Là, la Halakha sépare les pouvoirs et les distribue entre les tribus. Yehuda donc reçoit la royauté, et c'est donc la royauté de David pour l'éternité. C'est une royauté héréditaire de droit divin. Lévi reçoit le culte à travers la lignée qui émane de lui, qui est la lignée des Cohen, à partir de Aaron. Et Joseph, qui n'apparaît pas dans les 12 tribus, mais qui a une double part d'héritage à travers ses deux fils, Ephraïm et Ménaché, les deux tribus d'Ephraïm et Ménaché. Bon, le mode de gouvernement au temps bref de la royauté, sur lequel a beaucoup insisté d'ailleurs Claude Rivlin, est une oligarchie très hiérarchisée avec séparation des pouvoirs. Comme l'a exposé Rav Gronstein, c'est Dieu qui choisit le roi par l'intermédiaire du prophète. Le roi est soumis au contrôle du Sanhédrin, qui sont donc des sages qui siègent en collège et qui, comme m'a insisté Rav Gronstein, qui légifèrent en même temps qu'ils jugent, qui statuent sur les cas. Donc ils font la loi et en même temps ils jugent son application. Néanmoins, le peuple peut destituer le roi. C'est ça le pouvoir du peuple, il est quand même important. On peut constater qu'en exil, les Juifs sont soumis au régime de la même Shala. Que devient la malchoute, hein? Si le gouvernement du pays d'accueil ignore la malchoute de Dieu, les Juifs risquent d'être directement et irrémédiablement confrontés à Amalek, sans la protection d'un roi. C'est la situation de la Shoah. Que conclure de ce modèle hiérarchisé dont l'autorité repose sur un droit divin héréditaire, qu'il s'agisse du Meller ou du Cohen? Quel en est le régulateur? Dans la Bible, c'est manifestement le prophète. Homme de Dieu, imprévu, intègre, déstabilisateur, si bien que si on devait se représenter le pouvoir, on pourrait se le représenter comme une pyramide à l'envers reposant sur sa pointe, puisque c'est une pointe instable si c'est le prophète qui peut toujours intervenir à la demande de Dieu. C'est donc ça le mode de gouvernement interne d'Israël, enfin l'Israël souverain. Il faut rappeler qu'il a donc été catastrophique, c'est une royauté qui a duré environ 200 ans, et pour avoir l'idée des proportions, on a en face 20 siècles d'exil. Donc 200 ans de royauté, de souveraineté sur la terre, la royauté qui se termine assez mal, et 20 siècles d'exil. Alors, en Galoute, les trois axes cités, à savoir la Malchout, la Memshala et Amalek, sont actifs et vont entrer en contact et même en collusion. Donc les Juifs en exil vont devoir composer avec ces trois forces. C'est ça le champ du politique. Le gouvernement, maintenant je passe à l'intervention de Danny Trum, le gouvernement des Juifs selon la Megillat Esther, et qui est un modèle pour l'action politique selon Danny Trum. Alors Danny Trump, présent donc lors de la première séance, a été questionné sur son livre « Persévérance du fait juif » et propose un autre schéma explicatif de la politique suivie par les juifs en galoute qu'il a emprunté à la Megillat Esther. Il a d'abord souligné son embarras au niveau du vocabulaire. Ça, ça me semble un point tout à fait important. Des choses que nous avons peut-être à clarifier ou à élaborer, justement, la question du vocabulaire dans le champ politique. Aucun mot du lexique hébreu ne correspond à la politique comme art de l'assemblement des humains, nous a-t-il dit. L'introduction du mot « médina » pour désigner la notion grecque de police est tardive, calquée sur l'arabe, et ne convient pas à un Israël dispersé qui ne forme pas une cité. Et encore moins, évidemment, parle-t-on de la souveraineté, de l'organisation de la souveraineté, que je signale un rabbin alarchiste qui s'appelle Avigès, Rav Avigès, a analysé dans des cours. Il a remarqué, enfin il a fait état à travers justement une rétrospective sur plusieurs millénaires, il a remarqué que le fonctionnement du gouvernement, ça c'est une question de Joe Toledano, le fonctionnement du gouvernement des juifs en dehors d'Israël, en période d'exil, était calqué en fait sur les habitudes du gouvernement à l'intérieur à l'époque où nous avions un royaume, c'est-à-dire que c'est des transmissions traditionnelles par famille, et il appelait ça d'une façon un peu critique le népotisme, c'est-à-dire donc ces transmissions préférentielles, familiales, qui ne coïncident pas toujours avec le mérite. Et avec les conséquences que ça peut entraîner au niveau de la représentation de la communauté, des problèmes de sclérose, etc., etc. Je fais juste une parenthèse que je referme très vite, parce que ce serait lui qu'il faudrait interroger. Donc je reviens à Danny Trump. Il a d'abord donc souligné son embarras sur le plan du vocabulaire. Il a ensuite rappelé que la politique juive a toujours été pensée en termes de messianisme. Le rassemblement des exilés est une promesse, une perspective d'avenir, un espoir d'assemblement et de retour sur un territoire. Entre-temps, la question qu'il pose est quel type d'assemblement forment les juifs en l'absence de territoire. Force est de constater que la politique a été pensée dans cet intervalle à la fois comme restauration, c'est-à-dire un retour à Jérusalem avec l'idée messianique, et comme révolution, au sens où il faut rompre avec l'attente messianique. C'est là un point qu'on va sans doute discuter Rav Avigdor, qui est action de Dieu, donc rompre avec cette attente qui est action directe de Dieu, et inventer un autre mode pour permettre l'action humaine. Vécue, elle, donc enfin, cette action humaine, c'est une sorte de forçage qui pose un dilemme, en particulier dans le judaïsme orthodoxe, puisque ce serait vécu comme une trahison et un retrait de Dieu. Donc là, ça c'est la position exposée, suivant ce que j'ai compris, de Danny Trump. Il fait valoir, en s'appuyant sur le texte de la Torah, qu'il y a dans le Midrash Haggadah, que dans les commentaires rabbiniques, une place pour cette action de l'homme, cette action humaine, dans des conditions limitées, qui sont justement des conditions de crise, et que précisément la notion de crise coïncide avec l'exil. Le modèle de la politique exilique est alors explicité. Il est fondé sur une alliance royale, bon ça on l'a déjà expliqué, mais je le répète, verticale, à laquelle les juifs se rangent et qui repose sur au moins deux croyances. D'une part, l'expérience qui donne à croire aux juifs que le pouvoir royal étranger qui les accueille est le plus susceptible d'assurer le rôle de gardien protecteur d'Israël que toute autre instance. Ça c'est la première croyance sur laquelle repose cette alliance verticale. Et la deuxième croyance, c'est que le pouvoir dominant reflète en quelque manière la volonté divine. Et c'est ce que Danny Trump a appelé le dédoublement du roi. Personnellement, j'appliquerai cette notion de dédoublement du roi plutôt en la souveraineté en Israël, plutôt que ce dédoublement du roi en galoute. Et je l'appellerai plus volontiers, ce dédoublement, une projection virtuelle, aléatoire et précaire de la volonté divine. Comme il apparaît dans le récit de la Megillat Esther. Bon, donc cette analyse que Danny Trump a sur cette alliance royale, il la fonde sur la Torah elle-même, en particulier sur la prophétie de Jérémie, qui stipule effectivement qu'il faut veiller à la prospérité, etc., du pays d'accueil, que c'est ça la prospérité d'Israël. Enfin, il y a toute une injonction de Jérémie avant la déportation et avant l'exil pour expliquer que l'exil est inéluctable et qu'il convient d'y adhérer et d'y participer. Bon, et participer au pouvoir étranger. Bon, et puis, il la fonde aussi sur le Talmud, qui stipule que Dina de Malchuta, Dina, la loi du royaume, c'est la loi. Ce schéma directeur de la politique juive durant plus de 20 siècles a été discuté par Nicolas Veil, notamment parce qu'il se présente comme exclusivement défensif, qu'il est activé par l'urgence et qu'il n'offre qu'une perspective de survie. C'est vrai que cette notion de survie, moi, c'est assez écran pour moi. Si j'ai le temps, je l'essaierai d'expliquer. Il n'y a pas d'alternative pour une souveraineté d'Israël. Après la Shoah, il paraît clair que ce modèle est en crise. Expose Nicolas Veil, mais dit aussi David Trump, et que les États-nations d'Europe ne présentent plus aucune garantie de protection des Juifs. David Trump répond que c'est l'État d'Israël qui désormais assure le rôle de gardien des Juifs partout dans le monde. Sur ce point-là, Rav Gronstein est intervenu et explique que dans la Torah, il n'y a pas de consistance à ce modèle du gardien d'Israël et de l'alliance royale. C'est un modèle sans racines. Il observe que la notion de gardien d'Israël ne représente pas une référence suffisamment solide et structurante telle que la promeut Danny Trump. Elle n'apparaît pas du tout dans la Torah de Moïse et n'a qu'une seule occurrence dans le Tanakh, dans les psaumes. De même, l'alliance verticale, l'alliance royale verticale, ne présente pas plus de fiabilité comme structure qui permet d'envisager un quelconque fondement spirituel en faveur d'une alliance avec un roi étranger. La seule alliance possible, c'est l'alliance avec Dieu, c'est la seule alliance verticale. Et d'ailleurs, on voit dans l'épisode d'Abraham, de l'alliance d'Abraham avec Avimelech, qu'il le paye avec la Keda et que, effectivement, Dieu ne tolère pas cette infidélité. Rav Avigdor s'étonne que l'attente messianique, dans ce chapitre justement, sur ce chapitre-là, donc du gouvernement en exil, que l'attente messianique soit considérée comme une inaction de l'homme, alors que justement, elle est active et participe par l'étude à la restauration de la souveraineté d'Israël. Donc, ceci nous conduit au deuxième point, qui est l'action de l'homme et l'action de Dieu dans l'histoire. La thèse de Danny Trump suppose le retrait de Dieu de l'histoire pour laisser la place à l'action de l'homme. Les deux actions sont comme antinomiques. C'est certainement cette thèse que Rav Avigdor donc va sans doute nous éclairer autrement. Jean-Michel Salantis, j'en parle parce qu'il est intervenu et que par ailleurs le livre de Danny Trump s'appuie sur l'analyse de Jean-Michel Salantis, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce qu'il met en évidence à propos du fait juif. Et alors il y a une notion très intéressante de Jean-Michel Salantis qui est, il dit qu'il y a deux régimes de l'action, l'action pour les juifs. Il y a le régime de la célébration politique dont la figure de proue est sans doute celle d'Anna Arendt. Et il y a le régime de l'étude observance. Et voilà comment il définit dans son livre le fait juif cette étude observance comme action. Hein. Nous pouvons en effet considérer que la compréhension de la loi est de nature à nous engager à lui obéir. Elle se produit chaque fois que l'espoir dont cette loi est porteuse pour le monde humain est pour ainsi dire communicatif. Chaque fois que l'idéalisme de la loi, une fois correctement compris, nous enrôle, nous y reconnaissons des fins universellement excellentes. C'est-à-dire que pour Jean-Michel Salantis, évidemment, l'action de l'étude d'observance et l'action même de la singularité d'Israël se jauge quand même à l'aune de l'universel. Et de l'universel, voilà. Non, on en parlera peut-être aussi. Bon, Danny Trump trouve dans la littérature rabbinique une justification à l'agir politique en tant qu'il délimite un espace de liberté qui est suspension de l'agir de Dieu, suspension de la Torah. Il n'y a que Dieu qui puisse agir, donc il faut inventer la possibilité d'agir sans trahir pour sortir d'un dilemme paralysant notamment dans l'esprit du judaïsme, d'un certain judaïsme orthodoxe. L'agir propre à la politique juive est caractérisé pour lui par le terme employé, alors puisque l'objectif est toujours de dégager du vocabulaire, hein, par le terme rabbinique de Ishtadel, qui signifie se débrouiller, seul, s'efforcer. C'est la possibilité d'agir par soi-même, sans l'intervention de Dieu, ainsi qu'il apparaît dans la Megillah, d'agir sur le roi pour le conduire à assurer la fonction protectrice de Dieu. Alors, effectivement, d'agir sur le roi pour lui permettre d'intervenir dans l'esprit, dans ce qu'on pourrait souhaiter de la protection de Dieu, ce serait un verbe factitif. Or, les Ishtadel, c'est un verbe réfléchi, c'est une action sur soi-même, qui produit un effet ensuite sur l'autre, sans doute. C'est pas tout à fait la même action. Bon. Ensuite, bon, cette politique exige un intercesseur. Remarque évidemment Daniel Trump. Il y a Esther et Mordechai dans la Megillah. Cette intercession est intermittente et ne s'exerce que dans la crise. De nouveau, on retrouve la crise, elle-même consubstantielle à l'exil. Qui est compris, et ça il a été évidemment très ferme, surtout dans les débats, Daniel Trump, il a expliqué que l'exil est une crise qui doit prendre fin. Il est hors de question que l'exil, et en particulier l'étude dans l'exil, installe les Juifs dans cet exil, alors que cet exil est programmé pour finir. Daniel Trump disait que c'est un passage ponctuel du joug de Dieu au joug du roi étranger, et justement c'est pas du tout évident à la lumière de ce qu'a dit Rav Gronstein, c'est-à-dire qu'on a vraiment les trois forces, on a Israël a toujours le souvenir de son héritage et toujours la fidélité à son héritage, et donc Malchut est en exercice en exil. Il y a la force de Memshala, effectivement le joug du roi étranger, et puis il y a Amalek. Donc c'est pas si simple. Bon, la Ishtadlut, action subjective réalisée par soi-même, ça, cette notion de subjectivité évidemment est très intéressante, il a précisé qu'elle se distingue de la mitzvah, qui est une action commandée par ordre divin. Il ne s'agit pas de remplir une obligation, mais de prendre l'initiative d'aller au-delà de l'obéissance au prescrit. Ce terme n'est pas dans la Torah, il est moderne, enfin il vient, je crois, du judaïsme rabbinique, hein, il vient du Talmud, il véhicule l'idée d'apporter un changement volontaire dans le monde. Alors, dans tout cet exposé, et dès le départ, d'ailleurs, Daniel Trump a écarté de son analyse la halakha, et dans nos séminaires, on ne peut pas écarter la question que pose la halakha. Alors, je me propose en dernier point, avant de céder la parole à Rav Abitbol, d'essayer de rassembler ce que nous avons, enfin, ce qui a pu apparaître concernant le questionnement de la place de la halakha. On ne peut pas donc écarter l'impact de la halakha à travers l'histoire, aussi bien dans la pensée du politique que dans la pensée rabbinique et dans la pratique du collectif juif en Israël et en Galoute. Comment les décisionnaires officiels de l'action dans la tradition prophétique biblique, les rabbins de la halakha, ont-ils tranché la question de la gouvernance dans la dispersion? Comment ont agi les représentants du collectif juif? Ça, c'était Joe Toledano qui avait insisté sur cet aspect et qui, en complément, avait posé comme question comment se passe la transmission et surtout quelles sont les conséquences pour l'éducation. Donc comment fonctionne la gouvernance du peuple juif par rapport à la halakha? La question de la halakha a été posée frontalement par Chaim Meyer Trancard à propos des règles de lecture-écriture de la Megillat Esther dans le traité Megillah. Il s'est étonné des positions de Danny Trump sur la loi dans son dernier chapitre, dans le dernier chapitre de son livre. Alors là, je cite, je prends l'initiative de citer ce qu'on n'a pas cité en ces termes aussi nets. Chaim Meyer. Bon, ce que dit Danny Trump à propos de la halakha, il dit que c'est une exploration continuelle de la défaillance collective. Puisque l'exil, effectivement, il faut le nommer, c'est une défaite, c'est une défaillance, que la loi est tentaculaire, anxiogène, culpabilisante, c'est une inculpation sans cause, c'est kafkaïen, ça place le peuple dans un endettement infini, l'étude est une conséquence de la défaite d'Israël, alors que l'étude constitue, dit et rappelle Chaim Meyer, constitue la singularité du peuple juif dans son rapport à la loi vivante du Sinaï, universalisable. Voilà. Alors, précision méthodologique que je voudrais apporter quand même par rapport à la démarche de Danny Trump sur la halakha, c'est qu'il a précisé très clairement, et dans une démarche d'explicitation scientifique tout à fait normale, qu'il a écarté dans son investigation et dans son corpus le midrash halakha. Il s'est limité, ce qui était déjà immense, au midrash agada. Et donc, on ne peut pas le questionner ou lui reprocher d'avoir écarté ceci, puisque précisément, ça fait partie de sa délimitation, de son objet. Hein. C'est son découpage scientifique qu'il a souhaité. Simplement, la question qu'on peut se poser, c'est que si dans son investigation et dans les prémices, il a éliminé la halakha, est-ce que dans ses conclusions, il tient compte de cette omission? Et est-ce que la généralisation qu'il propose concernant la politique juive ne mentionne pas ce que pourrait nous dire la halakha? Ça, c'est une question. Bon. Oui, alors les règles de la halakha, ça, je viens à une intervention de Tony Lévy, qui est par rapport à Rav Gronstein. Rav Gronstein nous a évidemment rappelé très rapidement ce qu'il en était des compilations et des normes de la halakha, et en particulier, Tony Lévy s'est étonné d'entendre Rav Gronstein se déclarer gêné par les contraintes normatives imposées à tous les rabbins à partir du XVIe siècle, avec le Shulchan Aruch. C'est une position évidemment qui mérite d'être soulignée, le Shulchan Aruch de Yosef Karo. Alors que Tony Lévy voyait le Shulchan Aruch comme un code incontournable, faisant consensus et faisant autorité. Or, effectivement, enfin, la position de Rav Gronstein, c'est qu'avant, effectivement, les rabbins, ils étaient près de leur communauté, ils statuaient, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, etc. Et ça fonctionnait comme ça. Et à un moment, au XVIe siècle, on a considéré qu'il y avait un risque d'oubli, et comme toujours à ce moment-là, on consigne, on met par écrit ce qui risque d'être oublié, et on est normatif. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Rav Gronstein, qui aura sans doute à nous l'expliquer, ce carcan s'est imposé à tous les rabbins. Sur la halakha, Danny Trump précise que ce n'est pas la singularité d'Israël. Là, il répond donc à Chaim Meyer. Ce n'est pas la singularité d'Israël qui est en cause, ce qu'il a lui-même très largement souligné dans son livre, mais c'est sa survie. Ça, c'est un point essentiel, vraiment essentiel, et je ne l'ai pas vu tout de suite, en fait, ce point-là. Je vais essayer de vous dire pourquoi je ne l'ai pas vu. C'est sa survie. La durabilité du peuple juif qui ne connaît pas les phases habituelles de l'apogée, du déclin et de la disparition des autres peuples. Il a vraiment insisté, surtout dans la discussion, Danny Trump, sur cette question de la survie, de savoir comment c'est perçu à l'intérieur du peuple juif et à l'extérieur. L'exil pour les rabbins est un châtiment lié à la défaillance du peuple à l'égard de Dieu. Le rétablissement de cette relation passe par l'étude. C'est ce que déclare Danny Trump, qui reconnaît vraiment la place centrale de l'étude pour un rétablissement de la relation avec le souverain créateur, qui fait circuler l'énergie continue et ininterrompue du texte de la Torah. Toutefois, cette étude n'est pas faite pour s'installer confortablement dans l'exil, mais pour l'abolir. L'exil doit prendre fin et l'étude doit y contribuer. Cet effort dans l'étude induit des éclaircissements sur la défaillance, bien entendu, pourquoi il y a eu 20 siècles d'exil, et le rétablissement de la, mais aussi donc des éclaircissements sur les modalités de rétablissement de la relation entre le souverain et son peuple. La survie, ça c'est la phrase vraiment clé, je trouve la phrase clé de votre livre, mais je ne l'ai vraiment pas vue cette chose-là, comme ça, parce que c'est le mot survie qui a fait écran pour moi. La survie, c'est un état de vie au ralenti. Alors que la survie telle que vous l'entendez, je crois vraiment qu'il faut que vous trouviez un autre concept, parce que c'est vraiment un concept très fort, et le terme usagé de survie ne le rend pas. La survie, alors je lis en fait ce que vous entendez, la survie miraculeuse des Juifs est le miracle moderne, l'attestation ultime que la promesse continue, qu'elle est valide, réactivée par la lecture publique de la Megillah chaque année. C'est-à-dire, et là vous répondez justement à l'objection de Chaim Meyer, à savoir que sainteté pas sainteté, pratique pas pratique, etc., halakha pas halakha, un juif vivant après 20 siècles de persécution, c'est un miracle. Tout le monde doit s'agenouiller, si j'ai bien compris votre position, ce que vous dites. Que ça efface beaucoup de choses, et en particulier, ça explique les objections par rapport à une halakha qui viendrait recouvrir, une halakha tentaculaire qui viendrait recouvrir ce miracle, au lieu de l'analyser et d'en tirer toutes les conséquences. J'ai presque fini, avant de passer la parole à Rav Abitbol. Alors, une autre objection qui a été soulevée, mais alors comment lire les événements tragiques de l'histoire, l'expulsion d'Espagne, la Shoah, sinon comme un déni de la réalité, et en tout cas de l'axiomatique du gardien. Danny Trump reconnaît qu'il y a eu un défaut d'analyse en assimilant ces événements à ceux du livre d'Esther. Ce fut une erreur, la promesse n'a pas fonctionné. La Shoah est un pourim raté. Avec la Shoah, les catégories traditionnelles sont prises en défaut. Les catégories dont se soutenait la politique juive jusque-là se trouvent démenties par la réalité empirique. Selon Danny Trump, cet échec a créé une crise profonde, et ça c'est son livre, le livre suivant, dans le monde orthodoxe, dans le monde juif, mais surtout en Europe. Il n'est pas exclu que cette crise européenne marque la fin des juifs en Europe, comme ce fut le cas en Espagne. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe se vide du reste des Juifs. Si le récit de la Mégillat Esther est infirmé dans la promesse de sauvetage, ça c'est un autre point, c'est justement un autre point que très probablement Rav Abitbol va discuter. Depuis la Seconde Guerre mondiale, donc, l'Europe se vide de ses juifs, mais néanmoins, tout en reconnaissant que la Mégillat Esther est infirmée, Danitra maintient quand même le fait que la promesse de sauvetage des juifs, si elle n'est plus assurée par le roi protecteur qui se révèle un roi criminel, n'empêche que reste valable comme schéma et que ce schéma est à rechercher dans une autre ailleurs, comme ça s'est fait en Espagne. Et d'après lui, la configuration actuelle de ce gardien d'Israël, qui donc est un schéma qui reste valable, et ça c'est un point à discuter, c'est l'État d'Israël qui assume ce rôle de gardien de manière nouvelle, c'est-à-dire non pas en fonction d'une histoire ancienne, mythique, mais en fonction d'une histoire politique internationale actuelle. J'ai presque fini, c'est mon dernier point. Donc Bruno Carcenti a souligné la temporalité particulière, en conclusion, de ce récit qui se réactualise donc chaque année et qu'on ne peut plus lire de la même manière, ni après la Shoah, ni après la création de l'État d'Israël. Donc, ma propre conclusion avant de passer la parole à Rav Abitbol, c'est de constater qu'il y a un point vide, il y a un espace qui reste vide, c'est la question de la souveraineté d'Israël aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de cette souveraineté? Ce point-là est resté vide. Nous avons évoqué la souveraineté passée, mais nous n'avons rien pu dire, si ce n'est que c'est un rôle de gardien, mais on ne peut certainement pas limiter le rôle de l'État d'Israël à ce rôle de gardien des juifs de diaspora. Bon, mais néanmoins, donc, on constate que Danny Trump s'est assigné la tâche méritoire et monumentale de rendre visible l'invisible et de faire partager par un grand nombre une expérience qui jusque-là n'était propre qu'au petit nombre des juifs. C'est une manière d'effacer le nom d'Amalek que de le rendre visible pour paralyser son action insidieuse et corrosive. Et en ce cela, on peut dire qu'il accomplit une mitzvah. L'actualité, par ailleurs, parce que comment tout ceci est reçu, l'actualité nous fait voir qu'au moment où l'exil prend fin pour Israël et où les Juifs gravissent les chemins qui convergent vers l'Alia, les autres peuples sont le siège de grands mouvements migratoires qui bouleversent leur perception d'eux-mêmes, de leur territoire, de leur histoire, de leur politique, et qu'ils sont envahis par une peur nouvelle, celle de connaître l'exil, y compris l'exil sur leur propre terre. Peut-être est-ce un dispositif d'écoute plus favorable que jamais dans la vie des empires, à la longue expérience d'Israël et à l'histoire singulière vécue et attestée par la permanence du peuple juif. Dans ce contexte, il est tout à fait important d'entendre ce que va nous dire Rav Abitbol sur les enseignements politiques de la Megillah. Je lui passe la parole.
Merci beaucoup, Eva. J'ai juste laissé Jo faire un petit intermède.